Et comme chaque mardi, on retrouve maintenant nos libraires. C'est le rendez-vous du libraire avec Nadège Loublié de La Femme Renard, Nathalie Pichon, Sophie Isaac et Philippe Bernadou de la librairie de Loche. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là pour nous donner quelques idées de lecture. Et on va commencer tout de suite avec Le Chagrin des Vivants, Nathalie.
Oui, Le Chagrin des Vivants de Anna Hope chez Gallimard. 5 jours des années 1920. 5 petites journées de novembre à Londres qui semblent anodines, mais qui bien évidemment ne le sont pas pour les 3 personnages du premier roman d'Anna Hope. Evelyne a la trentaine, vieille fille, elle travaille au bureau des pensions de l'armée et voit défiler toute la journée à son bureau des anciens soldats venus pour des réclamations pour le suivi de leur dossier. C'est dire que ce boulot ne l'aide pas à oublier la mort de son fiancé, tombé sur le sol français. Pour Etty, c'est la perte de son père et le retour de son frère traumatisé par la guerre qui l'oblige à travailler. Pour Sipens, elle offre une danse aux anciens soldats sur la piste du palais. Plus elle sera sollicitée et meilleur sera son salaire. Quant à Ada, on découvre une mère hantée par la disparition de son fils, Michael. À tel point qu'elle croit l'apercevoir à chaque coin de rue ou sentir sa présence chez elle. Le terrible conflit qui ébranla le monde s'est terminé depuis 2 ans. L'Angleterre se reconstruit. Dans les rues de la capitale, on voit passer d'anciens soldats, souvent mutilés, reconvertis en colporteurs ou qui n'ont même pas la chance d'avoir retrouvé un emploi. Les temps sont durs, le moral n'est pas au beau fixe. Et pourtant, un événement peu commun va ébranler la routine des Londoniens. L'arrivée du corps du soldat inconnu, rapatrié à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Ce guerrier inconnu, qui va devenir pour beaucoup le symbole de leur disparu, qui permettra à chacun d'aller se recueillir sur une tombe quand on n'a pas la possibilité et les moyens d'aller jusqu'en France pour le faire. Ada ne veut pas se rendre à cette cérémonie, malgré l'insistance de son amie. Elle préfère relire encore et encore les dernières lettres de son fils, croire qu'il n'est pas mort là-bas au front. Après tout, on n'a jamais retrouvé son corps. Torturée, elle finit par se rendre chez une médium pour communiquer avec lui, dire au revoir à ses fantômes, réaliser que son mari a besoin d'elle, de sa considération. Evelyne continue de s'apitoyer sur la disparition de son fiancé, se noie dans son amertume et sa rancœur, sans voir autour d'elle ceux qui lui tendent la main. C'est l'intervention d'un ancien soldat, sous les ordres de son frère et le récit terrible de ce qu'ils ont vécu, qui va lui donner ce sursaut nécessaire pour s'arracher à cette gangue de tristesse. Etty cherche le grand amour, l'homme qui l'entraînera dans une vie beaucoup plus excitante. Elle croit l'avoir trouvé en la personne du capitaine Montfort, le frère d'Evelyne. Elle ne sait pas qu'il porte en lui trop de souffrance et de culpabilité pour avoir cette force-là. Chacun de leurs parcours va finir par s'imbriquer et éclaircir l'intrigue de l'histoire. Bon, il faut l'avouer, avec un titre pareil, on se doute bien que ce livre n'est pas d'une grande gaieté. Mais l'atmosphère mélancolique qui s'en dégage est si poignante et les personnages sont d'une telle finesse, tout est si bien soigné que l'on ne peut que s'incliner devant la majesté et la force de ce récit. Anna Hope maîtrise parfaitement son écriture, donne le tempo. Le récit s'intensifie à mesure des jours qui passent. Plus on approche du 11 novembre, plus la fébrilité monte. Le jour J, la population londonienne rassemblée pour escorter le soldat inconnu jusqu'à sa demeure finale semble se mettre en mouvement, se réveiller enfin d'un cauchemar qui dure depuis trop longtemps. C'est également le cas pour nos 3 héroïnes qui y trouvent un apaisement et une volonté d'avancer. Étape qui n'est pas sans rappeler le titre anglais « Wake », qui veut dire éveil, beaucoup plus positif que la traduction choisie pour la version française, et qui retranscrit avec plus de justesse le dénouement de cette histoire. Pour ce premier roman, Anna Hope réussit le pari de convaincre lecteurs et éditeurs, et on lui souhaite donc une longue carrière.
Merci Nathalie. Philippe, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ?
Ben c'est la rubrique « Ça a débuté comme ça ». Comme tous les mois, qui vous propose le début d'un roman pour en apprécier le style. Et ça tombe bien parce que je voulais parler depuis le début de l'année du roman de Jean Echenoz, Envoyé spécial. Et peut-être que plutôt que d'en parler, il suffit de l'écouter pour en saisir tout le jus. « Je veux une femme », a proféré le général. « C'est une femme qu'il me faut, n'est-ce pas ?» « Vous n'êtes pas le seul dans ce cas », lui a souri Paul Objat. « Épargnez-moi ces réflexions, Objat », s'est redit le général. « Je ne plaisante pas là-dessus. Un peu de tenue, bon Dieu. » Le sourire d'Objat s'est dissous. « Je vous prie de m'excuser, mon général. » N'en parlons plus, a dit le gradé, réfléchissons. Nous ne sommes pas loin de midi, les deux hommes réfléchissent, assis de part et d'autre d'un secrétaire métallique vert, vieux modèle réglementaire à caissons, derrière lequel se tient le général. Le plateau de ce meuble n'est occupé que par une lampe éteinte, une boîte de cigarillos Panther Tango, un cendrier vide et un sous-main en buvard très ancien, fort et filoché, qui semble avoir épongé puis conclu nombre d'affaires à depuis, disons, le dossier Ben Barka. Le secrétaire vert occupe le fond d'une pièce austère dont la fenêtre commande une cour de caserne pavée. À part lui, se trouvent deux chaises en tubulure escaille, trois armoires de classement à dossier suspendu, une tablette supportant un vieil et gros ordinateur malpropre. Tout cela ne date pas d'hier, et le fauteuil du général n'a pas l'air bien douillé, ses accotoirs sont oxydés, ses coins fendillés laissent distinguer, voire fuir par lambeaux, son infrastructure en polyuréthane de la première génération. Les coups de midi ont fini par sonner au clocher, tout proche de Notre-Dame des Otages. Le général s'est emparé d'un cigarillo, l'a observé, massé, humé, puis l'a rangé dans son étui. « Une femme », a-t-il répété à voix basse, se parlant à lui-même. « Une femme », a-t-il haussé le ton, « mais pas seulement, surtout pas une stagiaire comme on en trouve partout. Quelqu'un d'absolument étranger au réseau, voyez-vous ?»« Pas tout à fait », a dû admettre Obja. « Eh bien, une innocente, quoi », a résumé le général. « Qui ne comprend rien à rien, qui fait ce qu'on lui dit de faire et qui ne pose pas de questions. Plutôt jolie, si possible. » « Ça fait beaucoup de critères à faire valoir Obja. Ça ne veut pas être facile à trouver. »« Je sais », a reconnu le général. Envoyé spécial, donc ça sera cette femme qui n'est envoyée rien moins que aller déstabiliser la Corée du Nord. C'est publié chez Minuit de Jean Echenoz.
Merci Philippe, et on accueille Sophie pour la première fois. Bonjour. Dans le rendez-vous du libraire. Bonjour Sophie.
Alors moi je voudrais vous présenter une bande dessinée qui s'intitule Facteur pour femmes de Didier Kella-Guyot et Sébastien Maurice, publiée aux éditions du Grand Angle. C'est une bande dessinée que j'ai découverte tout à fait par hasard en fin d'année. Et j'étais intriguée parce que c'était surtout des femmes qui l'achetaient, et donc voilà, je l'ai découverte et j'ai adoré. Une bande dessinée originale et bien sympathique. Alors nous sommes sur une petite île de Bretagne où les habitants vaquent à leurs occupations, loin des événements tragiques qui secouent l'Europe. Nous sommes en 1914, la guerre vient d'être déclarée et l'ordre de mobilisation tombe. Tous les hommes valides et en âge de se battre doivent embarquer pour la France et combattre l'ennemi qui envahit le pays. Ils espèrent revenir, persuadés que le conflit sera de courte durée. Les garçons, les vieillards et puis un jeune homme, Maël, réformé à cause de son pied beau, voilà les seuls mâles présents sur l'île. Les femmes vont donc reprendre le flambeau et s'occuper des tâches quotidiennes en attendant le retour de leur mari. Maël est réquisitionné en tant que facteur et sera donc chargé de distribuer le courrier aux quatre coins de l'île en vélo. Il prend son rôle très à cœur et petit à petit va lire le courrier, ses lettres écrites par les soldats à leurs épouses et qui racontent leur quotidien. Il va tellement le prendre à cœur qu'il va les réécrire, les rendre plus légères, enlevant ainsi tous les détails sordides de cette guerre qui n'en finit pas. À souvent les côtoyer, il apprend à connaître ces femmes, leur personnalité, leur force, leur sensibilité. Ce jeune Bénet, seul mâle vaillant, devient ainsi leur confident, ami et amant. Elles redécouvrent ainsi les plaisirs de la chair et cachent leur culpabilité et leur honte dans ses bras. Pendant toutes ces années de guerre, Maël, tel un seigneur, se constitue un « harem » entre guillemets et, profitant de leur solitude et de leur faiblesse, papillonne chez ses maîtresses. Lors de l'enterrement d'un mari blessé par la guerre, les femmes vont se retrouver, parler et découvrir la sordide vérité. Mais Maël ne se laisse pas faire et est prêt à tout pour que cette situation perdure. Sous ses airs de garçon gentil et simple se cache un être manipulateur et dénué de scrupules. Sa mort, stupide entre guillemets, dans un accident de vélo, va mettre fin au calvaire subi par les femmes de l'île et enfouir au plus profond de leur cœur ses secrets inavouables. Ce n'est que quelques années plus tard, quand une jeune femme revient dans son île natale peu après le décès de sa mère, qu'on apprend le fin mot de l'histoire. Alors c'est la troisième collaboration de Didier Quélat-Guyot et Sébastien Maurice après le Café des Colonies et Papeete 1914. Le scénariste, qui est prof agrégé de lettres et critique de bandes dessinées, nous offre un récit fluide, léger et sensible. Il aurait même été inspiré par une anecdote familiale. Dans les années 60, un oncle facteur est volage. Maurice, quant à lui, malgré un diplôme d'architecte, devient illustrateur indépendant et peut enfin s'adonner à sa passion du dessin. Grâce à un style et un trait de crayon tout en finesse et en simplicité, il joue sur les expressions des personnages et les rend très attachants. Et le décor de cette île bretonne est superbement reproduit avec des couleurs chaudes, des paysages qu'il connaît bien puisqu'il est né quelque part en Bretagne. Voilà, je vous invite à découvrir cette bande dessinée très originale et vraiment très très sympathique.
Et ça s'appelle Facteur pour femmes.
Voilà.
Merci Sophie et bienvenue dans ce rendez-vous du libraire.
Merci.
Et ce n'est pas un hasard si elle a choisi comme auteur quelqu'un qui a déjà fait une bande dessinée sur Papeete, comme elle l'a dit, puisque Sophie a été 15 ans ou plus.
17 ans.
17 ans libraire à Papeete.
Ah. Ça doit changer au niveau du climat.
Tout à fait. Je ne vous le fais pas dire.
Écrit d'ici, c'est une rubrique que vous nous proposez.
Nouvelle rubrique 2016, donc, pour mettre un peu d'éclairage sur les livres publiés par les auteurs de la région. Aujourd'hui, Michel Ferrer nous propose un livre sur une biographie d'Adolphe Poult, sous titre Une vie noyée. Adolphe Poult, on connaît le quai qui porte son nom. On ne sait peut-être plus dans les jeunes générations qu'il a péri en 1930, au cours des inondations de 1930. Il s'est noyé, trop fatigué d'avoir sauvé trop de monde. Et l'idée de ce livre avait été initiée par le fils d'Adolphe Poult, Jean Poult, qui est décédé lui maintenant, mais qui avait donné à Michel Ferrer tout un dossier et des papiers familiaux. Donc Ferrer a pu puiser largement dans ces archives-là pour faire cette biographie. Il est son propre éditeur sous l'appellation de la collection du Beffroi. Adolphe Poult, Une vie noyée de Michel Ferrer.
Merci, on en arrive maintenant à vos actualités. Je rappelle, il manque quelque chose ?
Non, à l'actualité.
À l'actualité, alors, oui.
Au singulier.
Alors, Nadège ?
Alors, nous recevons le 23, nous recevons donc l'auteur du premier recueil de nouvelles en lice pour le prix Place aux Nouvelles. Donc, nous recevons Beata Oumoubieyi-Mérès. Pour son recueil Ejo, publié aux éditions La Cheminante. Et cette même rencontre aura lieu la veille, donc à Lozère, à la médiathèque de Lozère, le 22.
Merci. Je rappelle que les références des ouvrages que vous nous présentez lors de cette émission, eh bien, vous les retrouvez sur librairiemontauban.fr. Je rappelle également que cette émission, si vous en avez raté toute partie, vous pouvez la retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Et si vous voulez bien nous rappeler les titres et les références des ouvrages que vous nous avez présentés aujourd'hui, on aura fait le tour. Nathalie.
Alors, je vous ai parlé d'un récit de Anna Hope, Le chagrin des vivants, aux éditions Gallimard, dans la collection du monde entier.
Sophie.
Alors, moi, je vous ai présenté une BD, Facteur pour femmes, de Quélat-Guyot et Maurice, aux éditions du Grand Angle.
Philippe.
Je vous ai lu le début de Envoyé spécial au féminin de Jean Echenoz aux éditions de Minuit et écrit d'ici, c'était Michel Ferrer de Adolphe Poult de Michel Ferrer, bien sûr. Une vie noyée, collection du Beffroi, Saint-Antonin, Nobleval.
Merci à vous, ce rendez-vous du libraire est maintenant en podcast sur notre site internet. À la semaine prochaine.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.